Chapitre 8. Le lendemain matin, après une nuit pleine d'anxiété, mon parti fut absolument pris. Je décidai de pardonner à Marien, de me fier à sa parole, et de conserver l'ami qui, depuis si longtemps déjà, me tendait la main dans chaque épreuve traversée. Ce pardon était à mes yeux un acte reconnaissant pour la bonté délicate dont il avait entouré ma détresse. J'oublierai un instant d'erreur, et après le premier embarras passé, bientôt nos relations redeviendraient cordiales comme autrefois. Il me paraissait raisonnable d'agir simplement en cette circonstance difficile et de ne pas compliquer ma vie morale en y introduisant de nouveaux éléments douloureux. Ma décision était arrêtée quand la fille entra chez moi. Je m'étais installé à travailler avec un grand calme apparent, mais ma figure était expressive car elle me dit immédiatement « Qu'est-ce qu'il y a encore, ma chère dame ?»« Mais rien d'extraordinaire, » répondis-je, ne voulant pas lui apprendre la déclaration de Marien. J'avais compté sans son bon sens et son affection perspicace qui entendait me suivre dans cette phase avec une vigilance infatigable. « C'est pas à moi qu'il faut raconter de pareilles sornettes. C'est-il ordinaire que vous ayez refusé de me voir hier après le départ de M. Marien ?» Je devine, allez! Eh bien, dis-je en baissant mon visage rougissant sur mon ouvrage, tu avais raison, il m'aime. Mais il m'a promis de ne plus jamais m'en parler et je suis bien heureuse de ne pas le perdre comme ami. La fine, debout devant moi, leva les bras et les laissa retomber sur son tablier dans un geste éloquent. Faut-il, ma chère dame, que vous ayez une pareille idée? Est-ce possible, je vous le demande, qu'il reste votre ami après avoir commencé ses contorsions? Je te répète qu'il m'a donné sa parole, dis-je en affectant de tirer mon aiguille avec une grande tranquillité. Pourquoi veux-tu que je ne le croie pas? Pourquoi veux-tu que j'éloigne de moi un des rares êtres qui m'aime? Ajoutai-je d'une voix tremblante. Pourquoi? Pourquoi je le veux? C'est pour ça sûrement. Elle me regardait avec inquiétude. Ma petite reine, me dit-elle avec énergie, il faut vous en aller. Je vais partir avec vous si vous voulez, mais ne restez pas près du danger. Le danger? Me crois-tu donc capable de vouloir faire le mal? Non, bien sûr, vous ne le voulez point. Mais ça peut bien arriver tout de même. C'est trop fort, dis-je exaspéré en jetant devant moi mon ouvrage. Que tu viennes me dire à moi que tu connais si bien, qu'il pourrait m'arriver de sacrifier ma dignité personnelle et, pour parler net, de prendre un amant parce que je ne veux pas perdre une amitié. Quel mal vois-tu dans cette idée si naturelle? Ce serait ridicule de montrer de la rigidité devant une erreur qu'il regrette déjà amèrement. La fine laissa passer la bourrasque sans mot dire. Mais sa vieille figure sérieuse avait une expression qui indiquait la résolution bien arrêtée de ne pas céder. Ma chère dame, je n'ai pas 67 ans pour un. Et plus vous vous débattez, plus je vois bien que j'ai raison. Vous n'avez que de bonnes idées, je ne dis pas non. Mais faut toujours se défier de son cœur, et encore plus des lapins qui viennent vous parler d'amitié après avoir braillé l'amour. Je le crois très sincère, la fine. Dis-je avec chagrin. C'est bien possible, et c'est une raison de plus pour vous défier, parce que s'il vous aime sérieusement, il recommencera à vous dire des choses que vous ne devez pas écouter. Crois-tu que je ne le sache pas? Ne suis-je pas une honnête femme? Dis-je avec émotion. Si, mon trésor, je vous connais bien, allez, reprit la fine d'une voix attendrie, mais j'ai toujours entendu dire qu'il ne fallait pas tenter le ciel. « Ne pas le voir, même comme un ami » murmurai-je. « Ah, ma chère mignonne, réfléchissez donc bien, et vous verrez que ce n'est plus comme ami que vous avez tant de plaisir à le voir. » Le mot me frappait en plein cœur et en pleine conscience. « Que je suis donc malheureuse » m'écriai-je en sanglotant et laissant tomber ma tête sur mes bras dans un élan de désespoir. La pauvre fine, tremblante devant ma douleur, s'efforçait de me calmer par les expressions de tendresse qu'elle employait jadis dans le vieux pastel pour apaiser mes chagrins d'enfant. Je t'assure que ce n'est pas de ma faute, dis-je en relevant mon visage brûlant. Il a été si bon pour moi. Ma chère mignonne, mon pauvre petit trésor, non, ce n'est point de votre faute. Ça devait arriver, il y a longtemps que je le vois et que j'ai la tête cabassée en y pensant. Mais pour finir, vous ne devez plus le recevoir. Mais tu sais bien que je ne lui dirai jamais rien, c'est impossible. Impossible, ma reine? Moi, je vous promets que c'est une chose que vous lui direz sans vous en douter. Pour qui me prends-tu, la fine? Pardi, pour une femme. Je me sentais si désolée que je n'avais plus le courage d'articuler un mot. Voulez-vous que nous partions? Me dit la fine, qui aurait voulu que je prisse une décision bien nette. Ça vous ferait grand bien de changer d'endroit et de vous distraire. Nous verrons. Je réfléchirai, répondis-je tristement. La journée et la nuit suivantes se passèrent à réfléchir aux paroles de la fine et à l'aveu qui m'avait échappé. Ma raison était convaincue, mon cœur luttait contre elle, mais le trouble de ma conscience m'affermissait dans la seule voie à suivre. Le lendemain, en m'approchant de la fenêtre, je vis que l'hiver avait décidément remplacé l'automne. Il avait neigé légèrement, la campagne poudrée était charmante. Mais la température s'étant radoucie, je sortis seul après le déjeuner, afin de méditer plus librement. Celui qui aime le péril périra. Ces mots que j'avais lus le matin même hantaient mon esprit, alors sous l'influence bienfaisante des pensées fortes qui le soutenaient depuis quelques mois. Cette petite vieille avait 100 fois raison. Je n'étais qu'une femme, et si faible, si humaine, que tout son être vibrait, au son même éloigné, d'un mot troublant. Il fallait donc agir comme un caractère droit et courageux qui sent bien qu'un premier pas est déjà fait dans le mal s'il accepte un lâche compromis, s'il a en lui-même une confiance orgueilleuse. Une course rapide me fit du bien. L'agitation physique répondait à je ne sais quelle bonne excitation intérieure. Mes énergies en mouvement chassaient les sophismes et toutes les fiertés de ma nature se réveillaient. Autour de moi, la campagne était triste, mais si paisible que la fumée bleue des cheminées d'un village voisin s'élevait toute droite sans qu'un souffle d'air vînt la troubler dans son ascension. Il n'en est pas ainsi pour moi, me dis-je avec un éclair de gaieté en reprenant le chemin du château. Mes résolutions et mes pensées vacillent sans que les brises s'en mêlent. Mais j'entends être maîtresse chez moi et soumettre, malgré elle, mes résistances. Il ne s'agit pas de périr. Lorsque j'entrai dans le vestibule, un domestique me dit que M. Marguin m'attendait. Je montai dans ma chambre. J'enlevai lentement mon manteau et mon chapeau et restai quelques minutes avec ma fille, espérant que le trouble qui m'avait saisi s'apaiserait. Ma résolution d'agir s'était bien arrêtée, mais l'attitude de M. Marguin me dérouta. Il me salua comme si nul événement n'avait altéré la cordialité de nos relations. Son aisance était parfaitement naturelle, et tout à coup, je fus ravi en songeant qu'il pourrait se faire encore que rien ne fût changé entre nous. Avec l'allégresse d'un condamné qui voit reculer l'exécution de sa peine, je m'abandonnai au charme de sa conversation amicale. Pendant que nous causions, on vint lui dire qu'une femme, dont l'enfant était malade, demandait à lui parler. Durant son absence, qui se prolongea assez longtemps, je passai par des fluctuations diverses. La joie de le revoir, de le retrouver comme je l'avais toujours connu, avait amolli mon misérable courage. Et cependant, je sentais qu'il était d'autant plus urgent de rompre délibérément. Mais cette pensée d'une rupture définitive et immédiate, avec la seule joie qui me resta, remua toute l'amertume de ma vie. Ma jeunesse, ma jeunesse, oh ma belle jeunesse, me disais-je avec un regret poignant en regardant la campagne aussi triste que moi-même. J'avais prononcé ces mots à voix basse et, complètement absorbé, je ne m'étais pas aperçu que M. Marguin, depuis un instant, était auprès de moi. « Que comptez-vous à votre jeunesse ?» me dit-il. Je me retournai brusquement et aussitôt, dans son expression, je lus qu'il en serait de ses promesses comme de la fumée qui se perd dans l'espace. « Ah !» me dit-il d'un ton bas et chaleureux, « je donnerai ma vie pour avoir le droit de consoler comme je l'entends ce pauvre cœur qui a tant souffert. » En face du danger, je recouvrai tout à coup un calme surprenant. « Il se consolera avec le temps et l'aide de Dieu, » dis-je posément, « mais vous ne devez… » « Votre belle jeunesse, » reprit-il sans m'écouter, « pourquoi serait-elle perdue ?» Un mot surpris dans un moment de découragement ne signifie rien, répondis-je troublé. Et moi, je sais bien qu'il résume votre douleur. J'étais venu avec l'intention de vous prouver la sincérité de ma promesse, mais en vous voyant, puis-je ne pas vous dire ce que vous ne devez plus jamais répéter, interrompis-je avec fermeté. C'était une folie de revenir ici. Partez maintenant, je l'exige absolument. « Laissez-moi parler, » me dit-il de cette voix sympathique, affectueuse, qui, hélas, me touchait toujours. « Pourquoi vous frappez vous-même ? Votre jeunesse, mais elle peut vivre, elle peut connaître les joies qui lui ont échappé. La pensée m'est venue parfois que si je vous avais connu plus tôt, vous eussiez peut-être consenti à me confier votre vie. Est-ce vrai ? « Peut-être, » répondis-je franchement, « mais je n'en sais rien. » Vous pourriez donc m'aimer, moi qui vous aime de toutes les puissances de mon être? Attendez, ne vous fâchez pas. Je comprendrais que vous fussiez offensé si mon amour était un caprice. Mais vous me connaissez assez pour savoir qu'il est aussi profond que serait le vôtre si vous aimiez. Je suis mariée, répondis-je, et la déclaration d'un amour, sincère ou non, ne se fait pas à une femme comme moi. Partez, je vous en prie. « Où sont donc les liens qui vous retiennent ? » s'écria-t-il. « N'ont-ils pas été brisés par un autre ? Vous êtes délivré de tout engagement, votre contrat est rompu. » « Mon contrat est-il rompu avec mon honneur, avec le respect que je me dois à moi-même » dis-je indigné. « Parce que l'un est tombé, faut-il que l'autre se dégrade ? Et n'est-il pas étrange que vous, qui prétendiez adorer mon cœur pur, vous songiez à me ravaler au rang d'une misérable ? En vérité, il me semble que ma dégradation est déjà commencée, puisque j'en suis réduite à discuter avec vous un tel sujet. » Il devint très pâle et resta quelques minutes silencieux. Mon cœur battait à se rompre, les secondes me paraissaient longues comme des heures, et tout en voyant la nécessité de mettre fin à cette scène dangereuse, j'avais un poids énorme sur ma volonté. « C'est vrai, votre esprit droit ne peut s'y tromper. » me dit-il en se levant. « Pardonnez-moi, je vous aime tant, et je suis bien malheureux. » Ces mots furent prononcés avec un accent qui me bouleversa. En un instant, toutes les preuves d'affection qu'il m'avait données passèrent devant mes yeux. Je le revis auprès de moi, essayant, sans se trahir, de m'attirer hors de la désespérance et de mettre la confiance dans mon cœur désolé. Je le revis après la mort de mon père, me disant de ces paroles affectueuses qui ne s'oublient plus quand elles ont été prononcées à l'heure d'un grand déchirement. Il m'aimait, enfin, il m'aimait depuis longtemps, et il s'était tu pendant bien des mois afin d'avoir le droit de me consoler. Mon amour, ma tendresse, furent plus forts que moi-même, et cédant à l'un de ces malheureux mouvements primesautiers qui étaient dans ma nature, je m'écriai « Ah, si vous êtes malheureux, que suis-je donc, moi, qui vous perds après avoir tout perdu ?» Son visage prit une expression de joie qui le rendit presque beau. « Geneviève, vous m'aimiez et vous refusiez le bonheur ?» Je m'étais levé et, dans ma stupeur en voyant que j'avais avoué ce qui ne devait jamais être dit, je ne pouvais plus parler. « Vous m'aimez, vous l'avez avoué !» me dit-il en prenant ma main que je retirai vivement. « J'ai avoué, je suis bien coupable, » murmurai-je en pâlissant. Il me regarda d'un air plein de compassion. « Pauvre enfant, l'ombre même du mal vous fait pâlir. » J'essayai, sans y parvenir, de revenir à moi, et déjà j'éprouvais tous les remords de ma défaillance. C'est de ce moment, je crois, Que date mon immense compatissance pour les femmes tombées, que ni le milieu, ni l'éducation, ni les croyances n'ont protégée. Désormais, en me rappelant ma faiblesse en face de l'homme, sur le cœur loyal duquel j'aurais appuyé ma tête fatiguée, avec un bonheur dont la seule pensée me transportait, je ne devais plus avoir qu'une indulgente pitié pour les infortunés que leur soif d'aimer trahit et entraîne dans l'abîme. « Chère Geneviève, me dit Marien pour m'obliger à parler. Cette seule familiarité révolta toute ma fierté et me rendit à moi-même en me courrouçant. « En aucune façon, vous ne devez me parler sur ce ton familier, dis-je. Partez !»« Partir, partir quand je sais que vous m'aimez, que je puis devenir pour vous ce que si souvent j'ai rêvé d'être. » « Et c'est à moi, dis-je d'une voix tremblante, qu'on ose parler ainsi, et jusqu'à un certain point, vous pouvez vous en reconnaître le droit. Vous n'êtes plus, m'écriai-je dans un transport de colère, l'ami que j'ai connu, mais l'homme qui est la cause de ma déchéance à mes propres yeux. Ce n'est pas vous qui parlez, me dit-il de son ton si bon, si affectueux. Essayez d'envisager avec plus de calme la situation. C'est fait, dis-je. La situation est nette. Vous partirez ou vous obligerez une femme à quitter sa maison pour fuir l'insulte. Vous ne ménagez pas celui qui vous aime, me dit-il d'une voix étouffée. C'est irrévocable. Irrévocable. Il me regarda pendant un silence qui me parut long comme l'angoisse. Eh bien donc, je partirai, dit-il en hésitant. Mais en attendant, il ne pouvait se décider à me quitter. Geneviève, pauvre enfant que je sais être si malheureuse, s'écria-t-il dans un de ces élans de tendresse et de passion qui étaient comme un écho de ma propre nature. Qui donc vous entourera comme je l'aurai fait? Qui vous consolera? Et Dieu et ma fille, répondis-je. Il s'approcha de moi et, une fois encore, me supplia. Vous ne voulez pas connaître le bonheur d'être aimé par un homme loyal et sincère? Jusqu'ici, dis-je, votre seule excuse était dans la sincérité de votre sentiment. Mais votre conduite, si vous insistez, deviendra indigne, car, sachez-le bien, jamais, jamais je ne céderai. Il saisit ma main qu'il baisa avec ardeur et partit. Les heures passèrent, les ombres remplirent le salon, et j'étais encore debout à la même place. Un domestique apporta de la lumière et me dit quelque chose que je ne compris pas. Mon air l'inquiéta sans doute, car il m'envoya la fine. « Ma chère dame, est-ce que vous êtes malade ?»« Tout est fini, lui dis-je très bas. Il ne reviendra plus. »« Ça vaut mieux que ce soit fini, puisque ça devait être, » me dit-elle d'un ton où perçait une vive satisfaction qui me fit un mal affreux. Ah, m'écriai-je, j'ai tout en horreur ici. Je passai rapidement devant elle et montai dans ma chambre dont je poussai le verrou. La douleur, le mépris pour moi-même, ma pitié pour lui, mon amour exalté par les paroles passionnées que je croyais entendre encore, se confondaient dans mon âme pour la faire tourner au gré des caprices d'une véritable tempête. Cependant, s'il m'eût fallu subir un nouvel assaut, je savais bien que ma réponse ne varierait pas. Mais je luttai contre la femme qui, dans la terrible agitation de ses pensées, prenait en horreur jusqu'au calme de cette chambre dont elle aimait tant d'habitude l'aspect recueilli. Tout à coup, une vive impulsion me jette au pied de mon Christ, et les yeux sur cette image aimée de la souffrance, je demande le courage et l'apaisement. Puis, près de Gilberte, je songe longuement, en regardant son joli visage endormi qu'éclaire une lumière voilée. À côté d'elle, une mère pleure sur elle-même parce qu'elle est faible. Elle pleure aussi en pensant que la vie apportera à sa fille des déceptions qui la trouveront peut-être sans force. Elle demande, enfant, que ses larmes te soient une égide contre toi-même, elle te les donne, offrande humblement faite à celui que tu connaîtras un jour, qu'elle soit pour toi le soutien caché au milieu des épreuves, qu'elles en atténuent la rudesse, et, garant de mon traité, te préserve des chutes.